Assalamu alaikum, bienvenue. Donc on commence, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, comme on est la nuit du 12 du mois de Rabi'ul Awwal, on va parler de la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète, alayhi salatu wa salam, c'est la mère des créatures. Les prophètes sont les meilleurs des créatures, les prophètes. Et les musulmans du monde se réjouissent dans ce mois-là de la naissance du prophète, alayhi salatu wa salam. Aimer le prophète est une adoration, le glorifier aussi. Manifester de l'amour et de la joie pour sa naissance est quelque chose que Allah agrée et qui est connu chez les musulmans, bien sûr, contrairement aux sectes extrémistes que eux ne représentent pas les musulmans. Donc il est normal de se réjouir de la meilleure des créatures qui est venue enseigner la vérité, qui est venue, comme tous les prophètes, enseigner la croyance qui sauve de l'enfer, qui fait rentrer au paradis, l'islam, la religion de vérité, celui qui est venu enseigner l'unicité de Dieu, celui qui a dit Afdalu ma qultu ana wa an-nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. C'est-à-dire le meilleur de ce que je dis, ainsi que les prophètes qui m'ont précédé, c'est il n'est de Dieu que Allah, l'unique, qui n'a pas d'associé. Donc bien sûr, tous les actes d'adoration nécessitent de mettre la bonne intention uniquement par recherche de l'agrément de Dieu. Et donc il est important de mettre la bonne intention dans son cœur par recherche de l'agrément de Dieu. Donc Allah Ta'ala dit dans le Coran honoré لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Dans Sourate At-Tawbah, ayah 128, qui signifie il vous est parvenu un messager issu d'entre vous qui craint pour vous que vous nous commettiez ce qui fait mériter le châtiment, qui s'attache avec ferveur à ce que vous ayez la foi, qui fait preuve d'une immense compassion et qui est miséricordieux envers les croyants. Donc voilà le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc c'est pour cela les musulmans, en cette occasion, ils manifestent de la joie et de la bonne humeur pour sa naissance, tout comme les anges étaient joyeux et contents quand il était né. Au contraire de Iblis qui a crié un cri très fort, comme on va voir quand le prophète il est né. Et comme suivent Iblis ces gens-là égarés malheureusement. Et alhamdoulillah, les musulmans ils suivent les anges dans le fait d'être heureux de la naissance du prophète. Donc là, on parle pas de n'importe qui. Déjà, en islam, comme on a dit, il est recommandé de faire l'aqiqa, célébrer la naissance, une naissance qu'on a, au septième jour, etc. Alors que cet enfant, il va peut-être devenir criminel, égaré, athée, tu sais pas l'avenir, tu espères le bien. Mais quand même, il est recommandé de faire cette célébration, l'aqiqa. En islam, il est recommandé de célébrer festin de mariage qui peut finir, le mariage qui peut finir en divorce, dispute, ça va encore plus loin des fois. Et on l'a déjà vu. Le prophète, il a dit, « A'linu al-nikah wa adribu alayhi bid-duff. » c'est-à-dire d'annoncer le mariage, de célébrer et d'utiliser le tambourin. Donc connu, donc utilise le bendir qu'on dit douf dans les pays musulmans. Alors que ça peut donc finir mal ces choses-là, mais là on parle du Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure de toutes les créatures. Donc c'est normal de parler du prophète, tout ceci, donc pour celui qui est sensé, qui comprend, sauf donc les faibles d'esprit qui comprennent pas. Donc parler du prophète, c'est une adoration, manifester l'amour envers le prophète, réciter le Coran, parler de sa biographie, de ce qui s'est passé dans sa vie, c'est quelque chose donc qui est conforme à la religion, bien évidemment. Parce que le prophète n'a pas interdit de faire le bien, au contraire, il nous a incité à faire le bien et Allah Ta'ala dit wa'f'alul khayr, qui signifie faites le bien. Donc le bien, il y a beaucoup de portes de bien. Jeûner, réciter le Coran, parler du prophète, parler de sa croyance, qui est c'est le plus important, la croyance de tous les prophètes, de ces caractéristiques, ils ont les plus belles apparences, les prophètes, comme il a dit alayhi salatu wassalam. Ils ont tous un beau visage, une belle voix, et votre prophète a le plus beau visage et la plus belle voix d'entre eux. Et ils sont intelligents, honnêtes, véridiques, chastes, éloquents, ils sont préservés de la mécréance, ils sont préservés des grands péchés comme se suicider ou la fornication, ils sont préservés des petits péchés de bassesse avant l'avènement de leur mission de prophète comme après, ce sont les meilleurs des créatures. Donc voilà, c'est l'occasion de parler de ça. Et ça, c'est conforme à la religion. Et tout ceci comporte donc un bien. Donc on ne peut pas renier cela que les gens égarés et les gens faibles d'esprit, malheureusement. Donc on aura l'occasion de parler des preuves en détail, inshallah. On a parlé la dernière fois. Fait écouter le cours précédent. Et donc on a cité quelques preuves. On y reviendra, inshallah. Allah Ta'ala dit aussi قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Qui signifie dit par la grâce de Allah et par sa miséricorde, par cela qu'ils se réjouissent, c'est mieux que les biens du bas monde. Sourate Yunus, ayat 58. Ascendance du prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam. Donc, huwa Abul Qasim, Sayyiduna Muhammad. Il est Abul Qasim, notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, fils de Abdullah, ibn Abdillah, ibn Abdil Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdi Manaf, ibn Qusay, ibn Kilab, ibn Murrah, ibn Ka'b, ibn Lu'ay, ibn Ghalib, ibn Fihr, ibn Malik, ibn Nadr, ibn Kinana, ibn Khuzaymah, ibn Mudrikah, ibn Ilyas, ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ويتصل نسبه الى نبي الله اسماعيل ابن نبي الله ابراهيم donc il est Abul Qasim notre maître Muhammad fils de Abdullah fils de Abdul Muttalib fils de Hashim fils de Abdul Manaf fils de Qusay fils de Kilab fils de Murrah fils de Ka'b fils de Lu'ay fils de Ghalib fils de Fihr fils de Malik fils de An-Nadr fils de Kinana, fils de Khuzaima, fils de Mudrika, fils de Ilyas, fils de Mudar, fils de Nizar, fils de Ma'ad, fils de Adnan. Et Adnan descend du prophète Ismaïl, alayhi salam, fils du prophète Ibrahim, alayhi salam. Donc, connaître cette ascendance, c'est une obligation d'ordre communautaire, pas sur chacun. Donc, mais qu'il y ait des gens de la communauté qui connaissent cela. Donc il descend du prophète Ismaïl. Ismaïl, il n'est pas arabe, mais il s'est marié chez les Arabes. Donc fils du prophète Ibrahim. Ibrahim, il avait Ismaïl qui était à la Mecque, et il avait Ishaq qui était en Palestine. Il faisait des allers-retours entre la Palestine et la Mecque. Ibrahim, c'est le deuxième meilleur prophète. Donc, comme on a dit, tous les prophètes, c'est des musulmans. Et donc, de Adam, premier prophète, jusqu'à dernier, Muhammad, alayhi salatu wassalam, on parle de Muhammad, celui qui a dirigé, il a fait imam de tous les prophètes à Jérusalem. De Adam jusqu'à Isa, l'avant-dernier, qui a été élevé au ciel. Donc, naissance du prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam. Donc, Al-Bayhaqi a rapporté d'après Ibn Abbas qu'il a dit, le prophète est né l'année de l'éléphant. Donc, l'année de l'éléphant, donc, chez les Arabes avant, ils appelaient l'année par un fait marquant, le fait le plus marquant. Donc, c'est l'année de l'éléphant, le fait marquant, très connu, cité dans le Coran même, sourate Al-Fil, où il y avait, donc, une armée qui est venue, il y avait des éléphants dedans. Puis il y avait un éléphant devant pour détruire la Kaaba. C'était cette année-là. Et Dieu les a punis par des oiseaux qui sont venus avec des pierres et les ont anéantis. Donc, quant au mois de. Donc, il y a plusieurs avis. Donc, mais donc l'avis connu des savants, c'est que c'est l'année de l'éléphant. Quant au mois de sa naissance, c'est Rabi'ul Awwal. Donc, troisième mois lunaire. Oui. Et on est dans ce mois-là. Et ce qui est retenu, donc il y a des avis aussi là, mais ce qui est retenu par les savants, qu'il est né la 12e nuit de ce mois. Quant au jour de sa naissance, il s'agit du lundi sans divergence. Ainsi, Muslim a rapporté, d'après Abu Qatada al-Ansari, que Allah l'agrée, qu'il a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été interrogé sur le jeûne du lundi. Il a dit, ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. Ce qui signifie, en ce jour je suis né et en ce jour j'ai reçu la révélation. Donc, on l'a interrogé sur l'importance du jeûne du lundi. Il a dit, en ce jour je suis né, en ce jour j'ai reçu la révélation. Donc, les savants, ils sont intelligents. C'est pas des simples gens qui suivent aveuglément comme ça la secte wahhabite. Ils sont très intelligents. Avec un hadith, ils donnent des règles. Donc, comme on va voir, Suyuti, Al-Hafidh As-Sakhawi, ils ont tiré, par exemple, de ce hadith-là, des grands savants du hadith, que c'est bien de faire le Maulid, parce que le prophète, il a indiqué de glorifier le jour de sa naissance. Et la glorification, ça peut être par le jeûne, par parler de son histoire, de ce qu'il a fait, de sa caractéristique, de sa description physique, donner à manger, réciter le Coran. Tout ceci, c'est des portes du bien. Donc voilà l'islam et la religion du juste milieu. On ne va pas interdire ce que Dieu n'a pas interdit. Ce que le prophète, il a interdit, on va voir dans les hadiths, de la mauvaise innovation, les innovations d'égarement, il a interdit les choses qui ne sont pas conformes aux règles de la religion. Il n'a pas dit ne faites pas tout ce que je n'ai pas cité. Le prophète, dans 23 ans, il n'a pas cité toutes les choses de la vie. Il n'a pas dit alors si c'est bien, tu donnes du pain et tu donnes du ça et de ça et de ça et de ça et de ça. Il n'a pas cité tout ce que tu peux donner. Mais il a montré, par exemple, c'est bien. Tu donnes à manger avec les autres règles qu'il a citées, que ce soit licite, que ce soit pas illicite. Donc on va pas dire, ah non, donc je vais pas donner un gâteau au chocolat parce que le prophète il a pas parlé de gâteau au chocolat. Donc ça c'est vraiment une mauvaise compréhension, une faible compréhension. Donc ainsi les compagnons ils ont compris ça de ce qu'a dit le prophète. Et c'est pour cela ils ont rajouté des choses, des compagnons, comme on verra, inshallah, ils ont rajouté rien que rassembler tout le Coran en un seul livre. Le prophète n'a pas laissé en un seul livre. L'ordre, c'est le prophète qui l'a enseigné, mais il n'était pas rassemblé en un seul livre. C'est l'idée de Omar. Après, Abou Bakr a participé. Après, d'autres compagnons, ils ont fait participer pour faire cela. Les minarets, les points dans le Coran, le mihrab où se tient l'imam. Le deuxième appel du vendredi, Omar, quand il rassemble les gens avec un seul imam, pour Tarawih, il dit explicitement quelle bonne bid'a, ni'mal bid'atu hadhihi, dans Sahih Bukhari. et d'autres choses. Et les gens, pour les gens renouvelés, c'est pour renouveler l'amour et l'attachement envers le prophète, ils ont instauré le maoulid des grands savants. Donc c'est remercier Dieu pour ce bienfait qui est la venue du prophète Mohammed au monde. Et pour renouveler, ça renouvelle l'attachement et l'amour envers le prophète, et ça, personne ne peut le renier de sensé. Ça renouvelle l'attachement envers le prophète alayhi salatu wassalam. Et donc, bien sûr, les compagnons, ils étaient beaucoup attachés, donc eux, ils parlaient du prophète tous les jours. Donc, on va pas dire pourquoi les compagnons, ils ont pas fait le maoulid. Alors, les grands savants, ils ont dit, il y a un savant, par exemple, parmi les savants de l'Azhar, donc, qui était le cheikh de l'Azhar, cheikh al-Khadr Hassin, il s'appelait, c'était un Tunisien, mais il était cheikh de l'Azhar, et il a dit que nous, on fait comme ils faisaient les compagnons, pour le maoulid, tout simplement, il parlait du prophète, dans le maoulid, on parle du prophète, et eux, ils parlaient du prophète, en assemblée, ils font on fait l'éloge du prophète, et Hassan ibn Thabit, il faisait l'éloge du prophète et d'autres compagnons. Récitaient le Coran et ils récitaient le Coran. Donc on fait comme ils faisaient. Mais eux, à leur époque, il n'y avait pas l'occasion de ça, ou tel gâteau, ou telle spécialité, chaque pays a une spécialité. Donc, ou des lumières, ou des baffles. Donc, mais ils faisaient les chants, l'éloge du prophète. C'est connu ça. C'est connu, tout le monde dit que les femmes ou les compagnons et l'éloge comme Tal al-Badru alayna et d'autres. Donc Ibn Abbas, il a fait l'éloge, Al-Abbas lui-même, l'oncle du prophète, il a fait l'éloge du prophète alayhi salatu wassalam par des poèmes. Donc le prophète, dans ce hadith, il nous dit que il nous montre de glorifier le jour de sa naissance. Donc, il a indiqué cela dans ce hadith-là. Donc, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est né le lundi 12 du mois de Rabi'ul Awwal de l'année de l'éléphant. Allah Ta'ala a envoyé notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et a fait de lui la meilleure de ses créatures et la plus honorable selon son jugement. Donc, on n'exagère pas, bien sûr, comme ceux qui disent que c'est la première créature, c'est faux. C'est pas la première créature c'est l'eau, mais c'est la meilleure des créatures. Donc on mélange pas les choses. Donc on va pas exagérer, donc mélanger les choses, comme certains dans le Maoulid ils vont dire, ah oui, il y en a, ils parlent pour répliquer Wahhabite, mais ils disent des mauvaises choses eux-mêmes. Nous, on reste dans le juste milieu, on aime le prophète, on glorifie le prophète, mais on va pas dire des fausses informations comme certains, ils disent, ah ouais, même Abu Lahab, c'est une fausse histoire qu'ils disent. Ils disent soi-disant que il aura de l'eau chaque lundi en enfer parce que il s'est réjoui de la naissance du prophète. Alors là, c'est de l'exagération aussi. C'est contraire. Donc on va pas ni dans l'extrémisme des Wahhabites, ni dans cet extrémisme aussi. Donc ce qui s'est passé, Abu Lahab, c'était l'oncle du prophète. Il s'est réjoui pour un lien de parenté, c'est pas pour la prophétie. Quand le prophète est né, il s'est réjoui, c'est vrai, parce que c'était son neveu. Mais quand le prophète, il a manifesté son appel à 40 ans, il était son ennemi, Dieu a révélé une sourate complète. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Qu'il est perdu, qu'il va aller en enfer, c'était révélé pendant sa vie. Et donc, on va pas dire ce genre de choses. Il y en a qui le disent cela, malheureusement. Donc on suit pas ni ces gens extrémistes, ni ces gens aussi dans notre extrême. On reste sur les règles de la religion. Il se base sur un truc qui n'est pas valable religieusement de se baser dessus, comme quoi que Al-Abbas, il a vu un rêve, et c'est pas une preuve ça, il a vu un rêve que il lui est donné de l'eau. Le rêve de l'Abbas, c'est pas un prophète, Donc, c'est pas une preuve. Et dans ce rêve-là, il parle même pas de l'enfer. Il parle que lui a été donné de l'eau dans l'au-delà après sa mort. Et de toutes les manières, c'est contraire aux règles du Coran. La yukhaffafu anhum min adhabiha. Il leur sera pas allégé le châtiment. Donc il y a des versets, on suit les règles, comme il a dit. Donc le quatrième calife, il a dit, ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. Ce n'est pas par les hommes qu'on reconnaît la vérité, mais par la vérité qu'on reconnaît les hommes. La preuve, c'est le Coran, le hadith, la vérité. On revient, c'est pas un tel a dit ou un tel a dit ou telle personne a dit. Donc on suit pas aveuglément comme ça des gens. Il y a des gens, malheureusement aussi, on entend de nos jours, des gens ils suivent un tel aveuglément. Donc il faut suivre les règles de la religion. Donc il y a des savants qui ont composé sur le Maulid. Donc l'un des savants de ceux qui ont composé des ouvrages au sujet de la naissance du prophète a dit, Amina, la fille de Wahab, donc c'est la mère prophète, alayhi salatu wasalam, fut enceinte portant le messager de Allah, sallallahu alayhi wasallam, l'après-midi du vendredi de la première nuit de Rajab. Donc Rajab, c'est un mois lunaire aussi. Rajab, Sha'ban, Ramadan. Lorsqu'elle fut enceinte de lui, sallallahu alayhi wa sallam, on voyait les oiseaux qui voletaient autour d'elle par honneur pour celui qu'elle portait en son sein. Lorsqu'elle voulait puiser de l'eau d'un puits, l'eau montait jusqu'à elle par honneur et gloire pour le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Elle disait, j'entendais le tasbih des anges autour de moi et j'ai entendu quelqu'un dire, voici le maître des messagers. Or j'ai vu dans le rêve un arbre qui portait des étoiles. Parmi elles, il y avait une étoile plus éclatante de lumière que toutes les autres. Quand je l'ai regardée et que je contemplais sa lumière et son scintillement, elle est tombée sur mes genoux. Et j'ai entendu une voix me dire, voici le prophète, le maître des messagers. Puis un ange est venu à moi. Il m'a annoncé, tu es enceinte du meilleur des messagers et du maître des croyants. Je me suis réveillée de mon sommeil et j'ai raconté ce que j'avais vu à mon époux, à Abdullah. Il m'a dit, allons voir Khalif ibn Attab. Il t'expliquera ce rêve. Nous sommes partis le voir et je lui ai raconté ce que j'avais vu. Donc il y avait des gens qui connaissaient les livres anciens, ils n'étaient pas falsifiés encore. Donc ils avaient étudié. Il y avait beaucoup de signes. Dans la biographie de la vie du prophète, il y avait certains, ils ont entendu, de gens qui connaissaient, etc. Certains compagnons, ils ont entendu dans des régions, c'est le moment, le mois où il y aura l'envoi du prophète aussi. Et là, lui a expliqué. Donc, il m'a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit? L'arbre est Ibrahim al-Khalil, dans le rêve, ça représente Ibrahim. Et les étoiles sont les prophètes parmi ses descendants. Donc, tous les prophètes après Ibrahim descendent de Ibrahim, tous de son fils Ishaq, sauf Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de son fils Ismaïl. Et Ismaïl et Ishaq, ils étaient des prophètes. Donc, Ishaq, c'est le fils de Sarah, et Ismaïl, c'est le fils de Hajar. Il a dit, quant à l'étoile qui scintille et qui est plus lumineuse que toutes les autres, elle est le prophète qui apparaîtra dans cette époque et qui détruira les idoles et adorera Ar-Rahman. Ar-Rahman, c'est un des noms spécifiques à Dieu. Donc c'est important de savoir ça. Donc il y a tellement de l'ignorance, comme il a dit le prophète, la religion elle a commencé étrange, elle va redevenir étrange. Les gens, ils s'étonnent maintenant de ces choses-là connues. Comme le prophète au début, il s'étonnait de ce qu'il disait, les mécréants, comme cela est cité dans le Coran. Tellement il y a des gens ignorants, il y en a, ils vont appeler, dans certains pays, donc, il y en a, ils appellent leurs enfants Ar-Rahman, donc on ne peut pas appeler. Ar-Rahim, on peut, mais Ar-Rahman, c'est spécifique à Dieu. Il y a des noms qui sont réservés que pour Dieu. Il y a des noms qu'on peut appeler. Utilisé pour les créatures, mais pas dans le même sens. Salam, Karim, Rahim. On peut appeler son fils ainsi, ce n'est pas interdit, mais ça n'a pas le même sens que les noms de Dieu, bien sûr. Mais les mieux, bien sûr, Abdullah, Abdurrahman, donc attribué à Dieu. Abdus Salam, Abdul Karim, ça c'est les mieux que le nom du prophète. Après tout cela, ça vient le nom du prophète. Pas comme certains disent, ou bled, ils disent Ma'ubida ou Ma'humida. Donc, alors, ce qui est correct dans la religion, tous les noms qui sont attribués à Dieu, Abdus Salam, Abdul Karim, Abdurrahman, Abdullah, Abdurrahman, ça commence par là. Et après cela, ça vient le nom du prophète Muhammad, alayhi salatu wasalam, Muhammad, Ahmad. Et bien sûr, les noms des prophètes, on peut pas se moquer d'eux. Donc, quelqu'un qui veut appeler son fils Ishaq, on ne va pas dire se moquer. Mais on peut dire, elle va dire à son fils, mon fils choisit tel prénom. C'est pas interdit. Mais on peut pas dire, non, celui-là, non, j'aime pas, Nuh, voilà, des choses comme ça. Faire attention. Parce qu'il y a des gens tellement ignorants, quand tu veux appeler ton fils Ishaq ou Bled, ils vont paniquer. Mais Ishaq, il est musulman, tous les prophètes, c'est des musulmans. Il est hébreu, c'est vrai, mais que quatre prophètes arabes. Houd, Saleh, Shu'aib et Muhammad. Et le reste, c'est pas des arabes. Mais ils sont tous musulmans, les prophètes. Donc, hébreu, on respecte. La langue hébreu, on doit respecter. Et la langue araméenne, parce que Seyyidina Issa, il a reçu l'Injil en araméen. On respecte Issa, attention. Faire attention dans des contextes comme ça et des gens, par exemple, ils vont dire des choses dans ces contextes de tension et des gens ils vont se moquer de Muhammad. On peut pas se moquer de Isa. Il y avait dans le passé des gens ils insultaient Muhammad, les autres ont insulté Isa. C'est des mécréants. Moi-même j'ai vu devant moi quelqu'un, un arabe, quelqu'un du bled, comme on dit. Il a insulté le prophète Youssef. Je voulais le corriger, il est parti. C'est de la mécréance, mais il voulait pas écouter. Insulter un prophète, c'est de la mécréance. Tous les prophètes, c'est des musulmans. Mais, Allah dit dans le Coran, tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. C'est-à-dire, Dieu leur a donné des degrés plus élevés les uns aux autres. Donc, Moussa, comme le prophète, qu'est-ce qu'il a dit aux gens quand il a vu jeûner Ashura? Et d'ailleurs, c'est parmi les preuves que les enfants, les savants de l'islam, ils ont retenu que c'est bien de commémorer le Maulid Nabawi, la naissance du prophète. Parce que on remercie Dieu pour un bienfait et ça se répète ce remerciement dans chaque année. Et le prophète, il a jeûné à Ashura pour remercier Dieu parce qu'il a sauvé Moïse, d'autres prophètes, dans différentes circonstances. Il a dit, nous sommes prioritaires sur Moïse que vous, à ces gens non musulmans. Donc, tous les prophètes, ce sont les meilleurs des créatures, attention. On doit respecter tous les prophètes, sans exception. Ce sont les meilleurs des créatures. Ils sont meilleurs que les anges. Le meilleur, c'est Muhammad, après Ibrahim, Moussa, Isa, Nuh. Donc voilà l'enseignement de l'islam, qui est la seule vraie religion, c'est aimer et respecter tous les prophètes de Adam jusqu'à Muhammad, Isa, Moussa, et on respecte donc leur nom, bien sûr, les prophètes. Tous, ils ont enseigné que Dieu est unique, qu'il n'a pas d'associé, qu'il n'a besoin de rien, qu'il n'a pas de semblable, qu'il n'a pas d'égal. Et Ar-Rahman, on l'a dit, c'est réservé pour Dieu. Ça veut dire celui qui fait miséricordieux aux musulmans et aux non-musulmans dans cette vie et aux musulmans uniquement dans l'au-delà. Dans cette vie, Dieu fait miséricorde à tout le monde. Même l'air qui respire, les athées, c'est miséricorde de Dieu. Mais dans l'au-delà, il n'y a pas de miséricorde pour celui qui meurt non-musulman. C'est-à-dire, il y aura l'enfer pour l'éternité. Bien sûr, pour celui qui est pubère, saint d'esprit, qui a entendu la base de l'appel de l'islam. Parce que c'est les conditions pour rendre des comptes. C'est ça le nom Ar-Rahman. Celui qui fait miséricorde, donc, à tout le monde dans cette vie, et uniquement aux musulmans dans l'au-delà. Donc il a dit, et le fait que cette étoile soit tombée sur tes genoux signifie que tu vas accoucher de lui. De ce prophète de cette époque. Sa nouvelle se propagera de l'Orient à l'Occident. Donc, Abdullah, le père du prophète Muhammad, et par la suite tombé malade, il est décédé à Médine, alors que Amina était enceinte de 6 mois du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, bien sûr, ils ont dit les savants sunnites, ils sont unanimes que les parents du prophète, ils sont sauvés dans l'au-delà. Et donc, et beaucoup, ils ont dit qu'ils ont, sont musulmans, ils ont cru en, la, en ce que le Isa il a enseigné. Parce que avant il y avait donc Isa avant Mohammed, l'avant-dernier prophète. Il y avait la vraie enseignement de Isa, certains ils l'ont gardé, ils l'ont propagé. Et ils ont dit les savants qu'ils ne sont pas morts mécréants, les parents du prophète. Certains malheureusement alors ils regardent dans les livres tout seuls et des erreurs de manuscrits, ils sont trompés parce que par exemple là il y a jour si le là il est oublié ou il est omis ou on l'a oublié dans l'écriture, ça change le sens, ça fait l'inverse. Donc alors et son père il est mort alors que il était toujours donc dans le ventre de sa mère. Donc lorsqu'il est mort, le Abdullah, le père du prophète, les anges ont interrogé leur seigneur, non pas par objection, car les anges n'émettent jamais d'objection à Allah. Si quelqu'un il dit pourquoi il m'arrive cela, oh Allah, il veut comprendre la sagesse. C'est pas un blasphème. Mais s'il s'oppose à Dieu, c'est un blasphème. Il veut comprendre la sagesse de c'est quoi qu'il a fait, etc. Mais Allah dit dans le Coran, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. C'est-à-dire, Dieu n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, et eux seront interrogés. Donc Dieu fait ce qu'il veut. Donc ça, on l'a déjà vu la première fois. Et donc c'est un bienfait, la guidée que Dieu donne à qui il veut. Donc, alors, ils ont interrogé pour qu'on comprenne la sagesse. Ils ont dit, « Ô notre Seigneur, est-ce que ton prophète qui est ton bien-aimé sera donc orphelin » C'est-à-dire celui que t'agrées. C'est ça, que tu l'agrées. Parce que les sentiments, l'humeur, la colère, le changement, c'est impossible au sujet de Dieu. Donc fais attention les mauvaises traductions que les gens ils lisent, ils attribuent à Dieu la colère dans la Fatiha, alors que c'est « غير المغضوب عليهم » ceux qui méritent ton châtiment, on peut dire. Pas colère, changement, humeur. Donc fais attention. Et des gens te disent « Oui, moi je lis le Coran, mais il faut dire, pour être juste, j'ai lu la traduction d'un tel qui prétend traduire. » Lire le Coran, c'est tu lis en arabe, bilisan en arabi et mubin. Lire, c'est une chose, interpréter, c'est un au niveau de la science. Parce que certains, ils comprennent deux mots en arabe, et commencent à interpréter, débattre, on dirait c'est les mêmes chefs et les mêmes mails qui parlent. Juste en lisant des livres à droite et à gauche. Donc, faire attention au danger de ces gens-là. Le shaitan, donc, il est pas mort. Donc, il y a des gens, ils ont appris un peu et ils commencent à suivre leur passion et ils veulent égarer des gens avec eux. Attention. Il faut pas suivre comme ça, aveuglément. Omar, le grand calife, quand il s'est trompé, une femme l'a corrigé. Il a dit « Omar s'est trompé, une femme a dit vrai. » Donc, Allah Ta'ala dit « Je suis prioritaire pour le préserver. Je suis prioritaire sur sa mère et son père. » C'est moi qui l'a créé, qui lui accorderai sa subsistance. C'est moi qui le ferai grandir et qui lui donnerai la victoire sur ses ennemis. Je suis sur toute chose tout puissant. Donc, bien sûr, il est important de rappeler toujours la croyance, parce que c'est pas comme avant. Avant, ils apprenaient à 7 ans la croyance. Donc, dans les pays musulmans, les gens, ils apprenaient dès 7 ans. Donc dans les mosquées, etc. Donc on dit qu'on est les créatures de Dieu. On dit pas fils. Il y a des certains Arabes, des fois, ils disent un tel, c'est ils disent un tel, c'est fils de Dieu. C'est un blasphème. Dieu interdit de dire cela, même dans un sens figuré. Même si la personne vit dans un sens figuré, c'est un blasphème. Donc faire attention à cela. C'est une insulte envers Dieu dans un hadith aussi. C'est montré que c'est une insulte. On est les esclaves de Dieu, les créatures de Dieu, et Dieu n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin des prophètes, il n'a besoin de rien. C'est les créatures qui ont besoin de Dieu. Donc il a accordé à des créatures certains honneurs, et certains, il ne leur a pas accordé. Et les prophètes sont les plus honorables des créatures. Lorsque Amina fut enceinte du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, parut alors la clarté de sa conviction, et la lumière de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se manifesta sur son visage. Chaque mois de sa grossesse venait à elle un prophète. Les prophètes lui annonçaient la bonne nouvelle de la naissance du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle vit le premier mois le prophète Adam alayhi salam. Adam c'est le premier prophète, le premier humain, on doit le respecter. Il a un grand mérite, il a enseigné aux humains l'islam, comment parler, le langage. Il a enseigné comment fabriquer le tissu, le tissage, semer le blé, faire le pain, tout ça, c'est Adam qui a enseigné. Djibril lui a montré. Donc quand il a eu faim, parce qu'au paradis il avait pas faim. Donc bien sûr, on dit qu'il a fait un petit péché ici. C'est pas un péché capital, qu'on dit pas il a été chassé du paradis. Ça n'a jamais été dit dans le Coran ni dans le Hadith. Et Unzila, Orbita, on l'a fait descendre. Okhrija, on l'a fait sortir du paradis. Oui. C'est ce qui était cité. Pas chassé, c'est une connotation péjorative ici. Il est cité wa asa Adam rabbahu faghawa. Donc ça veut dire il a fait un petit péché. Ils ont dit le prophète il a dit lamma iqtarafa Adam al-khati'a. Quand il a fait le petit péché et il est cité qu'il a demandé par le degré de Muhammad que Dieu lui pardonne. Et il a expliqué Allah lui a dit, il est cité, comment tu as connu Muhammad? Bien sûr, Allah il sait toutes choses, mais pour nous montrer. Il a dit, Dieu, tu m'as créé, tu as insufflé en moi l'âme, c'est-à-dire Dieu a ordonné à l'ange d'insuffler l'âme. Il a vu sur les piliers du trône, La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Donc il a su que celui que cité à côté le nom de que cette créature qui est citée à côté du nom de Dieu, c'est la créature que Dieu a créée le plus. Donc le trône, bien sûr, comme on a dit, c'est une créature que Dieu a créée, Dieu n'en a pas besoin. Dieu existe avant l'espace, le temps. Il a créé les créatures, mais il n'en a pas besoin. Le trône, le kursi, le paradis, le ciel. Toutes ces créatures qu'il a créées, toutes ces animaux, toutes ces diverses choses, il dit wa yakhluqu ma la ta'lamun. Il crée ce que vous ne savez pas, mais il n'en a pas besoin de ces créatures. Attribuer à Dieu le besoin, l'établissement sur le trône ou la quantité, c'est un blasphème. Ces gens-là ont dit qui a créé le trône, qui a créé l'espace, le temps, c'est Dieu. Il existe avant les créatures. L'islam est conforme à la raison. Dieu a créé l'espace, le temps, il existe avant l'espace, le temps. Comme il a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, كان الله ولم يكن شيء غيره. Dieu existe de toute éternité et rien d'autre que lui n'est de toute éternité. Il n'y a que Dieu qui n'a pas de début. C'est ce qu'accepte la raison. La raison, elle accepte que cela, que toutes les créatures ont un début et celui qui leur a donné le début forcément n'a pas de début. C'est Dieu qui a l'existence obligatoire, selon la raison. Et toutes les autres créatures ont une existence possible, rationnellement. Donc Dieu, lui, n'a pas de début à son existence. Donc Adam, il a commis un petit péché. Il s'est repenti. Alors la règle, ils ont dit, la majorité des grands savants sunnites, que les prophètes, c'est possible qu'ils commettent un petit péché, mais ils se repentent avant que d'autres ne les suivent en cela. Donc ils ont dit un petit péché qui ne comporte pas de bassesse et d'indécence. Donc ça c'est donc on peut pas attribuer au prophète les grands péchés comme se suicider ou de vouloir se suicider ou de vouloir ou les choses d'indécence, de vouloir faire l'adultère, la fornication. Donc ça c'est la préservation des prophètes. Donc ces règles là, ces règles précises de la religion, ça prend par transmission de gens de confiance. Pas sur internet, à droite et à gauche, et bouquiner à droite et à gauche comme certains y font. Ils égarent les gens. Donc ça, c'est un danger. Faites attention. Parce que, après la mort, tu peux pas te rattraper, c'est trop tard. Donc, à la vue, Adam, alayhi salam, le deuxième mois, le prophète Shif, c'est le fils de Adam, parce que Adam, Shif, Idris, pendant, c'est leur période, c'est 2000 ans. Adam, c'est 1000 ans, à lui. Il a vécu 1000 ans. Après Shif et Idris, ça fait 2000 ans, en tout, tous les humains étaient musulmans. Il n'y avait que l'islam sur terre. Après la mort de Idris, il y a des gens qui commençaient à adorer des statues, jusqu'à ce que Dieu a envoyé le quatrième prophète, Nouh, qui a renouvelé l'appel, à l'islam. Mais c'était le premier prophète envoyé à des mécréants. Parce que les autres prophètes étaient envoyés à des musulmans. Donc il est resté 950 ans, comme il est cité dans le Coran, rappelé à l'islam. Peu de gens ont cru en lui. Donc, le troisième mois, elle a vu le prophète Idris. Le quatrième, le prophète Nouh. Le cinquième, le prophète Houd. Donc, qui est un prophète arabe, comme on l'a dit. Envoyé au peuple de Had. Le sixième, le prophète Ibrahim, qui est le deuxième meilleur prophète. Le septième, le prophète Ismaïl. Au huitième mois, elle a vu le prophète Moussa, alayhi salam. Et au neuvième mois, elle a vu le prophète Isa, Jésus, qui lui a annoncé la bonne nouvelle de la naissance du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, au cours de ce mois-là. Donc, ils sont les prophètes, on l'a dit, ils ont un beau visage, une belle voix, ils n'ont pas de maladie repoussante, ils sont éloquents. Il n'est pas permis de dire que Moussa ne savait pas parler. Donc ça, c'est un blasphème. Il n'est pas permis de dire que Ibrahim, il a douté sur la divinité du soleil, de la lune. Ça, c'est un blasphème. C'est Ibrahim, il reniait à son peuple, il leur montrait que le soleil, la lune, c'est des formes qui s'échangent d'un état à un autre, qui ne peuvent pas être Dieu. Donc faire attention, c'est des règles. Vraiment là, on parle pas de n'importe qui, on parle des prophètes. Ils sont meilleurs que les anges. Donc quand on parle de ces règles-là, ça, donc on apprend de gens de confiance avec chaîne de transmission. Pas en regardant sur Google à droite à gauche. Donc on apprend innama al-'ilmu bit-ta'allum. Certes, la science de la religion c'est par chaîne de transmission. Il a dit le prophète, dans le Coran, Allah Ta'ala dit 'allamahu shadidul quwwa. C'est-à-dire Jibril, qui a une grande force, qui a enseigné à Muhammad, alayhi salatu wassalam. Pourtant, Muhammad, il est mieux que Jibril. Donc, ça s'apprend par chaîne de transmission auprès de gens de confiance. Donc, lorsque le mois de Rabi'ul Awwal eut commencé, la douzième nuit, c'était la nuit du lundi, une nuit éclairée. Abdul Muttalib était sorti faire des tours autour de la Kaaba avec ses fils. Amina était restée seule dans la maison sans personne à ses côtés. Abdul Muttalib avait refermé la porte sur elle de crainte que quelqu'un ne vienne à elle. Elle dit, « Je suis restée là et j'ai entendu un bruit entre le ciel et la terre. J'ai vu un ange immense qui portait trois drapeaux. Il a mis le premier sur l'Orient, le deuxième sur l'Occident, et le troisième sur Al-Baytul Haram, la Kaaba. » Donc vous voyez, les anges sont contents pour la naissance du prophète. Déjà, pour la naissance de nos enfants, on est content. On espère pour eux le bien, mais c'est pas garanti pour eux comme le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, que dire de Muhammad, la mère des créatures, et qui est la cause de notre guidée. Il nous a montré donc que on doit l'aimer, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et on a pour atteindre un degré de foi complet, c'est qu'on l'aime plus que nous-mêmes, plus que nos enfants, plus que nos parents. Ça, c'est pour avoir le degré de foi de complète. Mais le respect et la glorification, on doit l'avoir, ça, c'est une obligation. Pour avoir la foi, d'avoir cette respect envers le prophète plus que les autres. Mais avoir le penchant et la passion envers Mohammed plus que tout le reste, c'est ça qui donne le degré de foi complet. Donc, comme il a dit à Omar, il a dit dans le sens que tu auras pour que tu aies le degré de foi complet, il faut que tu m'aimes plus que toi-même. Et là, alors Omar, il a dit, je t'aime plus que moi-même. Il a dit, al-an, c'est-à-dire là, tu as le degré de foi complet. Donc, mais glorifier le prophète, l'amour de la glorification, ça c'est une obligation, une nécessité pour la foi d'avoir la glorification du prophète plus que le reste des créatures. Mais avoir le penchant naturel et les passions et l'amour du penchant envers le prophète plus que le reste, ça donne le degré de foi complet. Donc voilà la précision. Alors les anges ils sont contents et il a planté les drapeaux comme on l'a vu. Amin a dit, lorsque ce fut la nuit du 12e jour de Rabiul Awwal, j'ai su que celui qui était dans mon ventre voulait descendre. Je me suis mise à pleurer du fait de me retrouver seule dans la maison. C'est alors que d'un coin de la maison, j'ai vu quatre femmes de grande taille, vêtues de pagne blanc. Elles étaient telles des lunes radieuses. Elles embaumaient un parfum magnifique. Je leur ai dit, qui êtes-vous donc, vous dont Allah, par sa grâce, m'a accordé la présence dans ma solitude et qui m'a soulagé, et qui a soulagé par vous mon épreuve? La première répondit, je suis Maryam, fille de Imran. Donc Maryam, c'est la meilleure femme de l'humanité, comme cité dans le Coran. Elle est musulmane, bien évidemment. Et elle et son fils, Isa, le prophète. Voici, elle a dit, à ta gauche, Sarah, la femme de Ibrahim, dont on a parlé juste avant, la mère de Ishaq. Voici à ton niveau, derrière toi, Hajar, la mère de Ismaïl, dont on a parlé, la mère de Ismaïl. Et voici devant toi, Asia, fille de Muzahim, une des meilleures femmes de l'humanité, qui est l'épouse de qui? De Pharaon, l'égaré. Dieu fait ce qu'il veut, comme on a dit. Il n'est pas obligé d'accorder à l'être humain ce qui est le mieux. Sinon, il aura accordé l'islam à Pharaon. Mais il lui a pas accordé, il a accordé à Asia. Et Pharaon fait partie des pires des humains, et Asia fait partie de la meilleure des humains. Et quand elle a su qu'elle est musulmane, il l'a tuée. Parce que, bien sûr, on rappelle entre parenthèses, dans la loi de Moussa, Dieu a révélé que c'est les lois des prophètes changent, mais pas la croyance. Et parmi les lois, dans la loi du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il est interdit, donc en islam, donc c'est pas valable donc un mariage religieux d'une musulmane avec un non-musulman. Le mariage religieux n'est pas valable, c'est-à-dire selon la loi de Dieu, elle n'est pas licite. Mais à l'époque, dans sa loi de Moïse, c'était permis. C'est pour cela qu'elle était mariée à Pharaon, à Asia. Amina rapporte, à cet instant, j'ai vu des météorites partir de droite et de gauche. Allah révéla à Ridwan, où Ridwan décore le paradis et met devant ses demeures les Hour, femmes du paradis, et les Wildan, serviteurs des gens du paradis. Donc, il décore le paradis par honneur au prophète. Vous voyez, les musulmans, ils suivent qui? Les anges. Et Ridwan, c'est l'ange gardien du paradis. Et les gens égarés suivent qui? Bah, Satan, Iblis, comme on va voir, qui a crié un cri très fort. Les anges se sont prosternés. Il a été dit à Malik, l'ange gardien de l'enfer. Ô Malik, ferme les portes de l'enfer et enchaîne les diables pour la descente des chefs parmi les anges. Les chefs des anges, Jibril, Mikaïl et Séraphil, Azraïl, l'ange de la mort. Ceux-là sont les chefs des anges. Amin a dit, je n'ai pas ressenti ce que ressentent les femmes lors de l'accouchement. Je transpirais beaucoup comme du musc. Chose à laquelle je n'étais pas habitué auparavant. Je me suis plainte de la soif. C'est alors qu'un ange m'a amené une gorgée d'eau dans un récipient d'argent. C'était une boisson plus douce que le miel, plus fraîche que la neige et d'une meilleure odeur que le musc. Je l'ai prise, je l'ai bu. C'est alors qu'une lumière m'a inondé. J'étais étonné et me suis mise à regarder à droite et à gauche. Tandis que j'étais assise, voici qu'un magnifique volatile blanc est venu et a passé ses ailes sur mon ventre en disant « Descends, ô messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, descends, ô messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. » Donc elle a dit « Le Créateur, celui qui sait les choses cachées et les choses apparentes, m'a aidé et j'ai accouché du bien-aimé de Allah, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. » Dieu lui a facilité. Et lui a envoyé ce magnifique oiseau. Amina a dit, quand il est sorti avec lui une lumière qui a éclairé de l'Orient à l'Occident. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est né avec du kohl, c'est-à-dire la poudre là qu'on met dans les yeux, que le prophète il a conseillé de mettre, donc le soir, etc., pour que ça soigne les yeux. Il était ouin, c'est-à-dire ouin avec l'huile en fait, soindre avec quelque chose. Le cordon ombilical sectionné et il était circoncis, comme il a dit parmi son honneur dans un hadith, il a dit que je suis né circoncis et personne n'a vu mes parties intimes. Ça, c'est dans le hadith. Le deuxième, lorsqu'il est né, trois anges se sont précipités auprès de lui. L'un avait un récipient d'or, le deuxième une cruche d'or, et le troisième une serviette de soie verte. Ils l'ont lavé avec une eau parfumée. Amina dit, lorsque j'ai accouché du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, je l'ai vu, la tête levée vers le ciel, y dirigeant son doigt. Parce que le ciel, bien sûr, c'est un endroit honoré. C'est interdit d'insulter le ciel parce que le ciel où habitent les anges. Et de là descend l'eau, qui a beaucoup de bénédictions, c'est dit dans le Coran. وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. Donc, Dieu fait descendre du ciel une eau bénie. Donc, le paradis au-dessus du ciel et les anges habitent le ciel qui adorent Dieu. Les anges, ils font les cinq prières. Mais bien sûr, ils ne jeûnent pas parce qu'ils ne mangent pas, ils ne dorment pas, ils ne se reproduisent pas, ils ne sont ni mâles ni femelles. Mais ils font les cinq prières. Ils font toujours l'adoration de Dieu. Donc, quand on lève les mains vers le ciel, parce que c'est l'endroit, c'est la direction pour les invocations. Et quand on se dirige vers la Qibla, c'est une invocation pour la prière. Et quand on se prosterne sur le sol, c'est une direction pour la prosternation. Mais Dieu, il n'a pas besoin de direction. Il a ordonné de diriger. Donc le prophète, certains mois, il s'est dirigé vers Jérusalem. Et après, il lui a été ordonné de se diriger vers la Mecque. Parce que toutes les directions appartiennent à Dieu. Et Dieu n'a pas besoin, il existe avant les directions. Dieu ne dépend pas de l'espace ni du temps. Ça, c'est une notion importante. On ne peut pas atteindre la réalité de Dieu, on dit qu'il est sans endroit et sans comment, il ne dépend pas du temps. Quoi que tu puisses imaginer, Dieu, on est différent. Comme dit Mayara, le grand savant de Fès, les gens de la vérité sont unanimes que Dieu n'a pas de direction, ni de haut, ni de bas, ni de droit, ni de gauche, ni de devant, ni de derrière. Pareil à cela, dit At-Tahawi, le grand savant d'Égypte, plus de 1000 ans en arrière, que Dieu est exempt des 6 directions. Et tous les savants disent cela, bien évidemment, car adorer un corps que ce soit une vache, une statue, un vieillard qui habiterait le ciel, ou le soleil, ou la lune, ou le feu, ou un humain, c'est la même chose, c'est adorer une créature, un corps qui a besoin de qui l'a spécifié, et celui qui a besoin, il ne peut pas être Dieu. Donc, Djibril l'a pris, les anges se sont envolés en le portant avec eux, Mikaïl l'a enveloppé dans un drap blanc du paradis, et l'a donné à Redouane, qui lui a donné à manger dans la bouche, tout comme un oiseau donne à manger à son petit. Je le regardais, c'était comme s'il disait « Ajoute-moi ». Et le douane lui disait « Cela te suffit, au bien-aimé de Allah. Il n'y a pas de science ni d'indulgence qui a été accordée à un prophète sans que cela te soit accordé. Attache-toi alors à la voie de droiture. Celui qui suivra ce que tu dis et ta loi sera rassemblé dans ton groupe. » C'est alors que quelqu'un a dit « Tournez avec lui aux orients de la terre et à ses occidents, et faites-le passer aux endroits où sont nés les prophètes. Donnez-lui la sérénité de Adam, la connaissance de Shif, la douceur de Nuh, la proximité due à l'agrément accordé à Ibrahim. » Khalil, c'est Khalilullah, ça, ce niveau, il n'y a que pour Muhammad et Ibrahim. C'est-à-dire, c'est ceux qui sont le plus agréés par Allah. La satisfaction de Ishaq, l'éloquence de Ismaïl, la sagesse de Luqman, la patience de Ayoub. Donc, Ayoub, il a patienté 18 ans dans le hadith. Bien sûr, il n'est pas cité dans le hadith, ni dans le Coran, qu'il aurait des vers qui sortaient de lui. Ça, c'est les non-musulmans qui disent cela, c'est connu. Les non-musulmans, donc les mécréants, des gens du livre, ils disent cela. Et c'est pas dans le Coran, dans le hadith. Certains, ils répètent cela. C'est pas digne d'un prophète que Dieu a envoyé pour expliquer la religion que des vers, ils sortent de lui. Et des gens, ils restent dehors, ils boivent d'alcool, ils dorment dehors. Tant on a vu ces gens-là qui dorment dehors, jamais on a vu qu'ils sortent de vers d'eux. Que dire des prophètes? Et le prophète nous a dit que la terre, elle touche même pas le corps des prophètes, il reste intact. Et on a vu la beauté du Yusuf. Et dans le hadith, qu'ils sont tous beaux, les prophètes. Ils ont des maladies comme forte fièvre, le prophète, il lui est arrivé, ou s'évanouir, ou forte douleur de tête. Mais pas les choses qui repoussent les gens. Ça, c'est une règle chez les savants. On ne parle pas de n'importe qui, on parle des prophètes ici. Ils sont préservés des maladies repoussantes. Donc Ayoub, il est resté 18 ans malade, mais c'était pas une maladie repoussante. Et Dieu l'a soulagé. Donc il a patienté. Donc faire attention aux histoires erronées. Donc, elles sont pas conformes à la religion. Alors, donnez-lui la patience de Ayoub, la belle voix de Daoud, la force de Moussa, l'ascétisme de Issa, la compréhension de Sulaiman, la médecine de Daniel. Daniel, c'était un prophète. On a dit que tous les prophètes sont pas arabes, il y a que 4 prophètes arabes. Et les prophètes, ils ont enseigné la médecine, ils ont enseigné l'urbanisme comme Idris, et la base de la survie comme Adam, on a dit. Donc, les prophètes, ils enseignent aux humains ce qui est de leur intérêt dans leur vie, d'ici-bas et dans l'au-delà. Le respect qu'inspirait Ilyas, la préservation de Yahya, l'acceptation de Zakaria, et enveloppez-le, des caractères des prophètes. Et cachez-le des yeux des humains et des djinns. Il est le bien-aimé du Seigneur des mondes. Honneur aux genoux qui l'ont porté. Honneur aux saints qui l'ont allaité. Honneur à la maison qu'il a habitée. Les oiseaux ont dit, nous chargerons de le nourrir. Les anges ont dit, non, nous sommes prioritaires. Les fauves ont dit, nous l'allaiterons. Allah a dit ce qui signifie, je suis prioritaire sur mon prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. J'ai réservé que ne l'allaitera comme mon esclave Halima. Donc effectivement, il a été allaité par Halima de Banu Sa'd. Donc voilà, on est vers la fin. Donc, signe apparu à la naissance du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. De nombreux signes sont apparus à la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et parmi eux, il y a ce qu'a rapporté Al-Bayhaqi, Ibn Asakir et d'autres que encore avec leur chaîne de transmission jusqu'à Hani Al-Makhzoumi qui l'a dit, quand ce fut la nuit durant laquelle est né le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, le palais de Khosroès a tremblé. Et 14 de ses balcons se sont effondrés. Le feu de Perse s'est éteint alors qu'il n'avait cessé de brûler depuis 1000 ans. Et la lagune de Sawa, ville de Perse, s'est asséchée. Donc le feu que les adorés, il était attisé pendant 1000 ans, il s'est éteint. Et dans l'effondrement des 14 balcons du palais de Khosroès, il y avait un signe qui ne restait que 14 des rois de Perse, dont le dernier vécut à l'époque du califat de Othman, que Allah l'agrée. Quant au feu que les Perses adoraient, au lieu d'adorer Allah, qu'ils approvisionnaient et attisaient nuit et jour, il s'est éteint. Pour ce qui est de la lagune de Sawa, où les bateaux se déplaçaient jusqu'alors, elle s'est asséchée. Parmi les signes qui sont apparus à sa naissance, sallallahu alayhi wa sallam, il y a les démons furent lapidés, ils reçurent des projectiles de feu à partir du ciel, et les nouvelles qu'apportent les anges du ciel leur devinrent inaccessibles. Parce qu'on l'a vu, quand les anges discutent vers le premier ciel certaines informations, ils vont écouter, ils vont donner à des charlatans ces informations. Donc conformément à ce que certains savants ont cité. Toutefois, ce qui est plus connu et retenu, c'est que la lapidation des démons par des flammes a eu lieu lors de l'avènement de sa mission de sallallahu alayhi wa sallam, sa mission de prophète. Donc c'est l'avis retenu que la lapidation des démons c'était à l'avènement de la mission du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que certains djinns s'est cité, ils sont partis voir c'est quoi ce qui s'est passé, et jusqu'à trouver le prophète avec il récitait le Coran avec ses compagnons, et il y en a ils se sont convertis. C'est ce qui est cité dans Sourate Al-Jin. Ils ont appelé d'autres à l'islam. Parmi les signes encore, il y a que les nouvelles du ciel furent voilées à Iblis qui a alors crié et a poussé un cri terrible identique à celui qui l'avait poussé lorsqu'il avait été maudit. Lorsqu'il a été chassé du paradis, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né et lorsque la Fatiha a été descendue par révélation. Cela a été rapporté par le Hafiz al-Iraqi dans Al-Mawridu al-Hani, d'après Baqi ibn Makhlad. Donc il a crié, donc il y a des gens, ils sont tristes dans cette occasion, comme Iblis, leur référence, malheureusement. Donc nous, on s'attache à cette voie-là de la glorification du prophète, d'aimer le prophète, comme on l'a dit, sans exagérer, parce qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala. On s'humilie à l'extrême pour Allah, mais on glorifie le prophète et on aime le prophète. Et encore parmi ces signes, il y a ce que l'on a entendu provenant de l'intérieur des statues, des voix annonçant la bonne nouvelle de l'apparition de la vérité dans le temps où le soleil a quitté le milieu du ciel. Donc voici en résumé ce qui est arrivé lors de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela indique le degré élevé du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à ce que Allah nous fasse profiter des bénédictions de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, donc l'occasion de Maulid, donc de parler sur cela. Donc il n'y a aucun mal, il y a des bénédictions en cela, s'attacher à l'amour du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et donc vous avez l'article. Donc, vous pouvez lire en détail les preuves détaillées sur la bonne innovation en islam. En fait, c'est clair ce qu'on a dit, mais c'est pour appuyer et pour réfuter les mises en doute des égarés, extrémistes. Donc, qu'il y a la bonne innovation, les paroles des grands savants, des preuves du Coran. Tant que ça contredit pas l'enseignement du prophète, rajouter un bien dans la religion, il n'y a pas de mal en cela, bien évidemment. Et explication correcte des hadiths, kullu bid'atin dhalala, Now, il explique que c'est, il veut dire ici, les innovations d'égarement. Ce n'est pas qu'il y a aucune bonne innovation. Tout c'est utilisé pour dire la plupart aussi. Comme le prophète dit, kullu ayn zaniya. Kullu ayn zaniya, littéralement, tout œil tombe dans le péché des yeux. Mais ici, il veut dire la plupart des humains. Il ne veut pas dire les prophètes aussi. Donc le mot kul, c'est utilisé, des fois, il y a des termes généraux, mais qui visent une restriction. Des fois, les gens ils disent, tout le monde est venu à mon mariage. Mais il veut dire, la plupart des gens du quartier sont venus. Donc il y a beaucoup de preuves, ça réfute leur mise en doute, il y a beaucoup d'arguments, donc vous pouvez regarder. Donc on y reviendra, voilà ce hadith-là, donc ici, il veut dire les innovations d'égarement qui sont réfutées. Comme il a expliqué l'imam Nawawi, qui explique, c'est un savant du hadith, qui explique ce hadith-là. Il y a des preuves, voilà, que le mot kul, comme tu dammiru kulla shay, dans ce verset, sourate al-Ahqaf, Allah Ta'ala dit, anéantit, toute chose, ce vent-là que Dieu a envoyé sur le peuple de Had, mais il n'a pas détruit les cieux et la terre. C'est-à-dire, c'est un terme général, mais qui vit avec il y a une restriction quand même. Puisque le vent, dont il est question, dans ce verset, qui détruit toute chose, Allah a fait qu'il souffle sur les non-croyants du peuple de Had, le vent les a anéantis. Mais ce vent n'a pas anéanti tout ce qui existe sur terre. Donc vous avez beaucoup de preuves. Voilà. Donc on y reviendra, inshallah, dans le prochain cours. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Vous avez besoin de réécouter plusieurs fois pour bien comprendre. Donc voilà. Donc profitez, réécoutez, partagez, inshallah. Vous pouvez poser des questions donc sur islam.ms, il y a le mail, ceux qui ont le WhatsApp. Donc bienvenue à vous. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit la yashba'u al-mu'minu min khayrin yasma'u hatta yakuna muntaha al-janna. C'est-à-dire le croyant ne se rassasie pas d'un bien qu'il entend jusqu'à ce que la fin on soit le paradis. والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه على سيدنا محمد أشرف المرسلين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين